Deutsche Welle. Droits et libertés.
Cette semaine, nous partons en Inde où il est pour beaucoup de familles encore considéré comme mieux d'avoir un garçon plutôt qu'une petite fille. Et puis à Hambourg où la construction d'un centre commercial sur des lieux chargés d'histoire fait débat. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous. Le gouvernement indien l'a reconnu lui-même, 21 millions de filles sont considérées comme indésirables dans le pays. Indésirables. Chaque année, pourtant, 2 millions de filles manquent en Inde à cause d'avortements provoqués quand le fœtus n'a pas le sexe souhaité par les parents ou parce que les fillettes meurent faute de soins appropriés quand elles ne sont pas tuées à la naissance. Écoutez maintenant l'histoire de Prema, une femme de New Delhi. Une histoire édifiante qui n'est pas un cas isolé.
À la naissance de Pooja, tout le monde était content. Quand je suis retombée enceinte, les gens me disaient « Cette fois, tu vas avoir un fils », mais c'était à nouveau une fille. Mon mari en a été malade, il m'a maudite et il m'a frappée. « Je veux un fils », qu'il me disait. « Pourquoi est-ce que tu me donnes une fille ? Les autres femmes arrivent à avoir des fils, elles. » Un jour, mon mari a poussé le bouchon trop loin. Il a battu notre fille aînée avec un bâton. Elle saignait de la tête et a dû être emmenée à l'hôpital. Il a menacé de tuer nos deux filles.
Prema n'a obtenu aucun soutien de sa famille. Tout le monde l'accusait d'être responsable de ce malheur.
Mes frères m'ont obligé à retourner chez mon mari. Ils m'ont dit, même s'il te bat, il est de ton devoir de rester chez lui.
Alors Prema est retombée enceinte. Au début de sa grossesse, elle avait des nausées, comme les deux premières fois. Son mari et sa famille en ont conclu que c'était le signe qu'elle portait encore une petite fille dans son ventre.
Ma belle-mère a alors exigé de mon mari qu'il me quitte et demande le divorce. J'étais abandonnée de tous. Mes filles et moi n'avions même pas assez d'argent pour nous nourrir.
Ce calvaire traversé par Prema n'est pas un cas unique en Inde. C'est Jo Singh qui dirige une organisation qui veut réhabiliter les filles dans le pays.
So South Asia is plagued with something called the son preference.
En Asie du Sud, on préfère généralement les garçons parce que de nombreuses personnes sont avares. Or, une fille, il faut souvent lui donner une dot quand elle se marie. Alors que les fils sont considérés comme les garants d'un certain confort matériel. Les échographies ne sont pas chères du tout ici, ce qui conduit à un quasi-génocide. On estime que ces examens prénataux coûtent la vie à près de 9000 petites filles chaque jour.
Girl children missing every day in this country.
En théorie, les médecins indiens ont interdiction d'indiquer le sexe du bébé lors des échographies. Mais ce sont les plus riches en Inde qui veulent des garçons à tout prix. Et soit ils ont les moyens de corrompre les médecins, soit ils ont eux-mêmes des médecins parmi leurs proches.
It was alarming to us that it was also...
Ce virus atteint désormais des couches sociales plus pauvres. C'est vraiment alarmant.
Le recensement de 2011 montre qu'il n'y a plus en Inde que 914 filles pour 1000 garçons, alors qu'elles étaient encore 960 il y a une trentaine d'années. Dans le nord du pays, la situation est particulièrement grave et l'écart entre les sexes se creuse. Prema, qui a été bannie par sa belle-famille, vient d'un milieu pauvre. Quand elle s'est retrouvée seule, enceinte, avec deux enfants à charge, elle a dû accepter des petits boulots, puis un travail de femme de ménage pour boucler ses fins de mois. Elle se nourrissait seulement de pain et de sel à cette époque.
Les médecins m'ont dit que j'étais trop faible pour accoucher normalement, que soit moi, soit mon bébé allions mourir, mais ça a marché quand même. Et c'était un petit garçon qui pesait 4 kilos.
Et quand le petit est né, le mari de Prema est revenu demander pardon.
Il fallait bien que je lui pardonne. Les gens d'ici croyaient que j'avais mauvais caractère, comme je vivais seule. Mais mon mari a vraiment du fumier plein la tête. Maintenant, il ne veut plus que je dépense de l'argent pour l'éducation de nos filles, mais au moins, il a arrêté de les battre.
La petite Kajal rêve de devenir un jour enseignante et Pooja, sa sœur, aimerait étudier la médecine. Leur mère, Prema, se dit prête à mener cette nouvelle lutte contre son époux pour permettre à leur fille d'avoir une vie meilleure que la sienne. Entre-temps, elle a donné naissance à un nouveau petit garçon et son mari lui a dit qu'il en voulait encore, maintenant que ça fonctionnait. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Prema s'est fait stériliser en secret. Et ça, elle le raconte en souriant. Retour en Allemagne, dans la ville de Hambourg, dans le nord du pays, l'immobilier est en plein boom. Un des projets prévus dans un quartier riche divise au plus haut point l'ancien quartier général de la police secrète de Hitler, la Gestapo, à Hambourg donc, est devenu un projet immobilier de luxe. Les proches des victimes de torture de la Gestapo protestent contre cette décision prise conjointement par la municipalité et des investisseurs privés. Le sénateur en charge de la culture à Hambourg parle de la centrale de la terreur. Elle se trouvait dans la mairie, un bâtiment vieux de plus de 300 ans, en plein centre-ville. Elle est reconnaissable de loin, cette mairie, à sa tour fraîchement rénovée qui surplombe les bâtiments environnants. Et au rez-de-chaussée, un hôtel a déjà pris ses quartiers. Et sur certaines vitres, on peut lire l'inscription « Allez, courage chérie », qui signale que des appartements de luxe vont voir le jour ici. Or, c'est justement derrière ces vitres de cette belle façade que la police secrète de Hitler, la Gestapo, torturait les ennemis du régime nazi. Dès 1933, des interrogatoires ont été menés ici, avec vue sur les canaux qui sillonnent la ville. Et parmi ceux qui ont été torturés là, il y a Herbert Bade, un coiffeur. Militant communiste, il a été arrêté parce qu'il détenait chez lui des tracts anti-nazis. Jamais la Gestapo n'est parvenue à apprendre que c'était lui qui les avait imprimés lui-même, ni qui faisait également partie de son réseau. Pourtant, comme le raconte son fils, Detlef, Herbert Bade a été torturé plusieurs fois dans ses locaux.
Mon père devait trahir ses camarades, mais il ne l'a jamais fait. Les hommes de la Gestapo l'attachaient à un chevalet en bois et le battaient jusqu'au sang pour qu'il craque. On lui frappait les genoux avec une barre de fer. On l'a enfermé au cachot parce qu'il n'avait livré aucun nom. On l'a tellement maltraité ici qu'il a eu les pommettes brisées, des blessures au visage. On lui a planté une baïonnette dans la jambe.
Ces traitements faisaient partie de l'entreprise de terreur systématique du régime nazi. Les déportations des esprits contestataires étaient elles aussi organisées depuis la mairie de Hambourg. Sur une plaque commémorative érigée dans les années 1980, on peut lire « Pour beaucoup, cet endroit a été leur dernier lieu de souffrance avant le camp de concentration ». Pourtant, après la guerre, l'histoire terrible des lieux a été quasiment oubliée. Seul le couloir des soupirs qui relie les cellules du sous-sol au bureau témoignait encore des atrocités commises en ces lieux. Le reste de la mairie avait été détruit par les bombes, reconstruit, et il abritait jusqu'en 2013 les services administratifs qui s'occupaient d'urbanisme. Sauf que l'emplacement central de ce beau bâtiment historique a attiré les convoitises. Et en 2009, la ville a vendu le bâtiment et le terrain à une entreprise privée, la Quantum Immobilien AG. Dans le contrat de vente, il est stipulé que Quantum devait commuer le lieu en endroit éducatif sur le passé nazi du bâtiment. En 2013, l'entreprise a revendu une partie de l'ancienne mairie, mais elle est toujours liée par la clause du contrat. Les services culturels de la municipalité estiment que le projet de lieu de mémoire est un premier pas, avec d'abord l'organisation d'une exposition sur les persécutions et la résistance au nazisme dans la ville de Hambourg. Une librairie spécialisée et un café où seront organisées des lectures et des rencontres doivent compléter le projet. Sauf que dans le reste du bâtiment doivent s'installer des magasins, des restaurants, des bureaux et même des appartements de luxe. Et c'est cette commercialisation de l'endroit qui suscite tant de protestations. Cornelia Kert, présidente de l'Association des victimes de persécution par le régime nazi.
On appelle ça lieu de mémoire, mais en fait, ce n'est rien de plus qu'une exposition sur son 10 mètres carrés au beau milieu d'un centre commercial avec une librairie commerciale et un café commercial. Même si les services de la mairie appellent ça librairie spécialisée et café culturel, ça ne change rien au fait que le mémorial est réduit à une exposition dans un centre commercial. Et pour nous, c'est inacceptable.
Und das geht aus unserer Sicht gar nicht.
Detlef Bade partage cette méfiance. Selon lui, en rénovant le bâtiment, on a tenté tout bonnement de retoucher son histoire.
Ce que mon père a enduré comme horreur ici est inimaginable. C'est pour ça qu'il est important de commuer ce lieu en lieu du souvenir. Et pour cela, il faut plus que 50 ou 80 mètres carrés. Il faudrait aménager un peu comme c'était à l'époque, rétablir ce qu'on a enlevé. Dans le cachot aussi, là où les gens étaient enfermés et battus presque à mort. Il faut que les gens sachent ce qui s'est passé. Ici, en plein centre-ville d'Hambourg.
Contactez le porte-parole de l'entreprise Quantum, Matthias Onkel, s'agace de ses reproches. Il souligne que jusqu'à présent, rien d'autre que la plaque au mur ne rappelait le passé. Il qualifie donc d'absurde les propos de ceux qui accusent Quantum, son entreprise, de vouloir faire taire l'histoire. Norbert Hackbusch, député local du parti de gauche des Linke, estime quant à lui qu'il aurait fallu aménager un mémorial il y a longtemps déjà.
C'est une erreur impardonnable de ne pas avoir pris cela en compte plus tôt. Nous l'avons toujours critiqué. C'est souvent arrivé en Allemagne qu'après la guerre, les gens veuillent oublier rapidement ce qui s'était passé. Il y a même un maire qui a déclaré « Nous voulons détruire les souvenirs ». Heureusement, maintenant on pense différemment. Et je crois que la société allemande a compris qu'il était important de se souvenir et de se confronter à notre passé.
Norbert Hackbusch déplore par exemple le fait que l'on ne verra pas de l'extérieur qu'il s'agit d'un mémorial. Quant aux proches des victimes, ils espèrent que les promesses de la municipalité et de l'entreprise d'impliquer des historiens et un musée dans la conception du projet, que ces promesses donc seront effectivement tenues. C'est la fin de ce magazine. Merci à Jenny Witt et Jürgen Webermann pour les sons. Écrivez-nous à français@dw.com pour nous faire part de vos commentaires. Salut et à la semaine prochaine.